Bien, bah écoutez, si vous voulez bien, on va démarrer cette rencontre avec Abdelwahab Medeb autour de son dernier ouvrage « Printemps de Tunis, la métamorphose de l'histoire » aux éditions Albin Michel. Ce qu'on va vous proposer, c'est dans un premier temps, je vais très brièvement présenter Abdelwahab Medeb qui est un homme riche, de connexion intellectuelle et généreux par sa volonté, sa pédagogie de partager ses savoirs et ses connaissances. Donc je vais essayer de faire relativement court, hein, et vous m'en excuserez parce que c'est écorcher un peu le personnage, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur vous. Ensuite, quelques questions pour introduire l'échange autour de votre dernier ouvrage et puis ouvrir une discussion avec vous, lecteur d'Abdelwahab Medeb ou futur lecteur pour ceux qui ne l'ont pas eu le plaisir de le lire. Alors, Abdelwahab Medeb est écrivain, poète, essayiste. Beaucoup le connaissent parce qu'il sévit tous les dimanches sur France Culture. Il est producteur de l'émission Culture d'Islam. Il apporte un éclairage et un enseignement très contemporain de la culture d'Islam. Il est universitaire, enseigne la littérature comparée à Paris 10, mais aussi à Genève et dans d'autres universités. Directeur de la revue Dédale, qui est une revue transdisciplinaire, internationale, et auteur de plus d'une vingtaine d'ouvrages. C'est un homme qui produit et qui écrit beaucoup. Et donc le dernier, Printemps de Tunis. Alors, moi j'ai eu beaucoup de... Parce que bon, il y a une plume de poète, donc vous traitez un sujet d'une extrême... d'un extrême enjeu contemporain et en même temps avec votre dimension poétique. Donc j'ai eu beaucoup de plaisir à vous lire et surtout vous nous faites revisiter des grands auteurs, des grands penseurs, des grands philosophes. C'est en ça où je disais que Abdelwahab Medeb est un homme riche et généreux. Parce que vous allez voir que vous allez rencontrer Hegel, Victor Hugo, Ernest Renan, Tocqueville, Condorcet, et je ne cite que. Parce qu'en permanence, comme c'est un homme, un érudit, on dit beaucoup de vous que vous êtes un érudit, parce que vous êtes aussi beaucoup dans la complexité puis dans la transdisciplinarité. Et effectivement, c'est un écrit de contexte, d'actualité, mais qui renvoie là aussi à toute une série de références d'auteurs et de penseurs, mais aussi d'événements, la Révolution française, la chute du mur de Berlin, le printemps de Prague, hein, la Révolution des œillets, et j'en passe. Donc en permanence, vous raccrochez, vous faites des liens, des ponts, des passerelles avec, entre la révolution tunisienne et l'histoire. Alors, ce livre est construit et travaillé avec une succession de textes, hein, de contributions. Ce que vous appelez, vous, la métamorphose de l'histoire. Et c'est vrai que les premiers pas de cette révolution, dans le relais qu'ils ont eu médiatique, alors qu'on était dans un moment rare, exceptionnel, il y a eu très peu d'émotions, en tous les cas. Moi, je vous avais aperçu dans une émission chez Tadi un soir. Et c'est vrai que vous étiez un des rares à transmettre une émotion par rapport à l'aspect exceptionnel, rare de ce moment-là, parce que c'est vrai que ces révolutions sont un moment de notre humanité, comme l'ont été d'autres, hein, moments que vous évoquez dans votre ouvrage. Et j'ai retrouvé ça dans la construction des différents textes que vous nous proposez. Donc un écrit aussi avec une plume de poésie et de métaphore, hein, un livre intime, hein, parce qu'on sent que vous parlez aussi d'une part de vous-même. Hein, je vous disais tout à l'heure que moi je trouve que vous êtes dans ce qu'appelle Amin Maalouf les identités meurtrières, donc vous êtes un homme aussi à multiples identités. Et cet ouvrage est quelque chose aussi d'un récit d'une part de vous-même. Et ça, c'est intéressant aussi comme approche dans un monde un peu clivé. Hein. Donc, d'un personnage comme vous, c'est intéressant aussi comme éclairage et témoignage. Parce que c'est aussi se risquer que de parler d'une part de soi-même. C'est aussi une réconciliation aussi peut-être avec la Tunisie, hein, parce que vous avez dit souvent que vous désespérez des Arabes pour aller vite, hein, pour parler rapidement. Et là, on sent que il y a quelque chose en vous qui se met en mouvement d'une réconciliation, d'un espoir qui renaît. Alors, une première question. Alors oui, excusez-moi, un élément très important, vous rendez un hommage très fort à Mohamed Bouazizi, qui a été cet homme qui s'est immolé, et là aussi vous en faites un élément central aussi de la construction de votre texte, et je trouvais ça aussi très, à la fois symboliquement fort et humainement très, très touchant. Donc voilà une première question. Donc bon, je vais essayer de pour donner un peu l'amorce de l'échange, d'ouvrir quelques questions. Alors c'est vrai qu'on est dans le temps de l'immédiateté, de l'ici et maintenant, que certains appelleraient l'accélération du temps. Et là effectivement vous êtes un peu là-dedans, parce que vous écrivez un texte, un ouvrage à chaud. Hein. Pourquoi un ouvrage si vite, voilà, à chaud? Première question, peut-être si vous avez des choses à dire avant. En tous les cas, oui, je tenais à remercier la librairie Mola de nous offrir l'occasion, en tant qu'association Boulevard des Potes, et puis le plaisir d'échanger avec Abdelhab Medeb. Voilà. Donc voilà, pourquoi un ouvrage comme ça à chaud, au cœur de l'événement, au moment où les choses sont en train de se faire et se défaire?
Merci infiniment de cette présentation, de cette ouverture, de votre lecture, de la série d'interrogations que ce texte a levé en vous. C'est toujours émouvant d'être en rapport direct avec un lecteur, parce que il vous renvoie à un texte qui ne vous appartient plus, bien sûr. Et merci aussi à la librairie Mola d'avoir organisé cette séance, aux éditions aussi Albin Michel, qui soutiennent d'une manière forte le livre. Il y a toujours ce rapport auteur-éditeur qui peut être un rapport privilégié quand il l'est. Il faut le signaler. D'ailleurs, une des raisons, je dois vous dire, de l'existence de ce livre, c'est que je ne dirais pas que c'est un livre suscité, mais disons que c'est un livre révélé par un éditeur, d'une certaine manière. Jean Moutapa, un des directeurs littéraires d'Albin Michel, qui est aussi un ami et avec qui nous avons déjà travaillé. J'ai deux livres parus avec comme éditeur chez Albin Michel, Jean Moutapa, travaille avec une amie poète japonaise, Madame Hiromi Tsukue, où nous avons travaillé ensemble pour rendre vers le français une des voix classiques de la poésie japonaise, une des voix qui fait partie de mes archées, hein, les anciens avec qui je continue de m'entretenir, ce que Blanchot appelle l'entretien avec les morts, et cela me paraît essentiel déjà d'avoir cet entretien avec des morts venant de multiples espaces linguistiques et de mondes littéraires différents. Ce type de connexion est assez, stimulant pour le travail d'un contemporain qui se veut justement dans un horizon cosmo-littéraire, cosmopolitique. Et il s'agit de Saijo, qui est le grand poète japonais du XIIe siècle, et un deuxième livre, L'exil occidental, où il est question de halte, justement, de rendre compte d'un itinéraire, d'un cheminement, un livre, particulier. Il faut un courage de la part de l'éditeur pour publier ce genre de livre complexe, justement de multiples discours, mettant en œuvre cette pluralité de formes, mais qui sont dans une logique cohérente et propre. Et d'ailleurs, cet exil occidental peut être une lecture qui est capable d'éclairer des moments de printemps de Tunis, puisqu'il s'agit justement de, comme je l'ai dit tout à l'heure, de halte le long d'un itinéraire dans la formation à la fois littéraire, spirituelle, le cheminement sous l'égide de cette notion d'exil occidental, qui est une notion, lorsque je l'avais rencontrée pour la première fois, elle m'avait profondément saisi parce qu'elle nous vient là aussi d'un auteur du XIIe siècle, un auteur bilingue, arabo-persan, Shihabuddin Sohrawardi, sur lequel, d'ailleurs, la première rencontre que j'ai eue de ce texte, c'est en traduction française, traduction d'Henri Corbin. À partir de là, je suis revenu à la source première, au texte premier, Récit de l'exil occidental, qui est un texte qui semblait correspondre précisément, et en lui, le terme même cristallise l'expérience que j'estime mienne, cette idée qu'en fait on est déjà avec le sentiment de l'étrangeté, le sentiment d'exil dès sa naissance. Elle devient une condition, je dirais, anthropologique et métaphysique, ce qui fait qu'une biographie, lorsque elle est construite sur un déplacement, ne fait que concrétiser un donné natif.
Alors, excusez-moi, peut-être, oui. Comme vous parlez de cet ouvrage, L'exil occidental, c'est une question que j'avais un peu prévu de vous poser, qui est un peu délicate, je dirais, mais bon, je pense que vous êtes aussi un homme de dialogue et d'ouverture. Effectivement, vous le dites très sincèrement que vous avez été surpris, mais vous n'étiez pas le seul. Beaucoup d'intellectuels, et ici en France, en Europe et ailleurs, n'avaient rien vu de ce qui était en train d'arriver ou de ce qui était en train de se cristalliser. Et justement, comment est-ce que peut-être, est-ce que ce n'est pas l'exil occidental? Alors on a dit que ces intellectuels ont été aveuglés par ces dictateurs qui étaient le rempart de la terreur, qui nous protégeaient contre le terrorisme, etc. etc. Donc bon, vous n'étiez pas, vous, complètement dans cette analyse-là, mais voilà, comment est-ce que l'exil occidental, à un moment donné, ne fait pas aussi rempart à une vision? Comment vous répondez à cette question de ce qu'on...
Oui et non. Mais d'abord, en quelques mots, je continue, et puis je viendrai vers vous à votre question. Avec aussi Jean Motapa, nous avons un grand projet littéraire sur lequel on travaille depuis plusieurs années, qui va paraître en 2013, en principe, chez Albin Michel. Je co-dirige avec Benjamin Stora un ouvrage qui est une mise au point scientifiques auxquels participent 120 chercheurs, on peut dire du monde entier, hein, des universités du monde entier, beaucoup d'universités américaines, européennes, arabes, israélien, et ça va être une mise au point avec 120 ou 130 chapitres, donc une espèce d'encyclopédie qui fait le point de l'histoire pour donner, justement montrer que cette histoire est autrement plus complexe que la frontalité simplificatrice d'aujourd'hui, l'histoire des relations entre juifs et musulmans du Coran à nos jours. Là, on aura une mise au point historique, anthropologique, qui va être absolument importante, me semble-t-il, qui aura, ce sera la matière du savoir nécessaire pour ramener cette relation à sa complexité, avec des moments parfois autrement plus heureux que notre contemporain. Il convenait de rappeler cette mémoire. Nous sommes en train donc à la tâche et de travailler là-dessus. Et donc, voilà, Jean, lorsqu'il avait lu et écouté mes multiples interventions, la réaction immédiate à partir du 7-8 janvier sur ce qui venait de se faire à Tunis, m'avait dit que je sens un livre en vous, que vous portez un livre, et là, non que je me fus plié à la commande, mais je me suis mis au jeu de l'écriture et j'ai vu qu'en effet, la voix dictée, c'était là, et qu'en effet, le livre se concrétisait sans la moindre contrainte, sans le moindre forçage, qu'en effet, là, il y avait donc... la demande correspond dès, en effet, à quelque chose qui était là et qui était porté. Alors, votre question sur la surprise, elle est double, votre question, je pense. Hein, je me permets de la scinder en deux. D'ailleurs, le tout premier chapitre reprend d'ailleurs un titre de... c'est un petit rapt, hein, les écrivains passent leur vie à procéder à des rapines aussi. C'est un titre d'un poème de Michaud, Par surprise. Et pour dire qu'en effet, personne ne s'attendait à un tel événement et que cet événement, quand il se levait, montait peu à peu, et on pensait que. Jusqu'à un certain... On ne pensait pas que ça allait prendre une telle proportion et à devenir un événement véritablement historique. Une révolution, c'est-à-dire quelque chose qui aura touché à la structure. Et quel que eût pu être le futur de ces événements, la structure du pouvoir dans ces pays a été entamée. Mais... cette notion de surprise, les révolutions en général viennent toujours par surprise. Mmh. On découvre que c'est une loi, en fait. Lorsqu'on lit Tocqueville, l'Ancien Régime et la Révolution, il disait de deux choses qui peuvent se vérifier dans le cas tunisien aussi, que le 14 juillet 1789 était un événement inattendu. Pourquoi ce jour-là, pas un autre jour? Pourquoi pas l'année d'après? Tout était là, les éléments étaient là. Il rappelle d'ailleurs que tout 1789 était dans CS en 1788, mais la BCS. Mais l'émergence de l'événement en tant que tel est toujours prend de court. Et cela, c'est normal parce que ça fait partie du fait, c'est un rappel que toujours cette dialectique, cette tension entre la volonté des humains et quelque chose qui déborde, qui excède cette volonté. Hein. On ne peut pas être... tout n'est pas programmable. Mmh. Hein. Et je crois que c'est une des raisons pour lesquelles il y a eu ce moment de sidération. Hein. Je m'explique le moment de sidération de multiples manières, mais c'est une des raisons qui a participé à la sidération qui a saisi tout le monde pour accueillir l'événement et à la... particulièrement au plan politique, mmh. hein, du fait que l'événement n'était pas accompagné à la hauteur En France, en tous les cas. Je rappelle que un jour de novembre 1989 a pris aussi tout le monde de court. Hein, lorsque le mur est tombé, il y avait tous les éléments qui... le processus était enclenché, mais lorsque ça s'est révélé, c'était pas... prévu, il y avait la Glanost, il y avait la Perestroïka, il y avait le début de la, je veux dire, la résistance civile en Allemagne qui grandissait, mais la nuit même où le mur est tombé, c'était aussi par surprise. Je rappellerai qu'à l'époque, le président français, François Mitterrand, était saisi de silence pendant quelques jours. Et la conséquence d'un tel événement, l'unité allemande, n'était pas dans les cartons. Il y avait même une forme de résistance. Il fallait surmonter, il fallait arriver à admettre, prendre conscience qu'en effet, cet événement va conduire à cette conséquence inéluctable. Mais ce n'était pas évident hein, pour essayer donc... de démontrer que ce phénomène est une loi de l'histoire. La deuxième question va plus loin. C'est le fait, même de l'avoir prévu, plus que cela, de ne pas avoir peut-être contribué, participé à l'avènement d'un tel événement, hein, de la part d'un intellectuel, par le travail qui est le sien. En effet, la tâche que je me suis assignée depuis en tous les cas au moins le 11 septembre 2001, ça a été pour moi, dans le travail critique que j'ai décidé de mener, outre les multiples travaux de création qui, par ailleurs, accompagnaient ce travail-là, c'était assigné pour tâche de mener... la nécessité de mener tout le travail sur le front de ce que j'estimais comme étant la menace première à l'échelle de toute une civilisation, de toute une culture, de toute une territorialité, cette interprétation qui conduit vers la barbarie, tout simplement, de l'islamisme. Et il fallait donc mener tout ce travail à la fois critique, de déconstruction, montrer qu'à partir même de la tradition islamique, il pouvait avoir une matière pour construire un sujet, objet, islam, tout autre que celui qui était en train de devenir dominant. Il y avait un enjeu considérable, je pense, là, de civilisation qui faisait que tous les autres considérants devenaient secondaires.
Vous, effectivement, vous étiez pris dans une démarche de déconstruction et de compréhension un peu de la question, mais dire quand même le discours sur le choc des civilisations, sur comment ces pays, ces peuples ne méritaient pas la démocratie, la liberté, parce que ceci, cela, donc qui installe des dictateurs sur des années, a quand même été une espèce de chape de plomb, même si chez certains intellectuels éclairés. Et c'est vrai qu'une révolution comme ça, même si elle vient par surprise et qu'il y a une loi, il y a une énergie, il y a un ancrage, il y a des mouvements qui s'opèrent qu'on n'a pas peut-être su mesurer ou analyser ou comprendre. C'est aussi ça la lecture. Alors peut-être que le discours changeant des États-Unis aussi, hein, parce qu'on le dit très peu, l'arrivée d'Obama et de sortir de cette logique de choc des civilisations participe aussi peut-être probablement d'une manière indirecte, plus à rendre aussi possible ces révolutions.
Il y avait la conjoncture est en train de changer. Hein, le travail qu'un certain nombre avait conduit dans le sens justement de cette manière d'affronter et de critiquer l'islamisme a fait évoluer les choses. Hein. Actuellement, l'islamisme qui se présente à nous a été obligé aussi de se réformer. Il savait que l'interprétation qui était la sienne, cette manière de vouloir faire de la politique au nom de la religion en rendant anémique le système des valeurs n'était pas tenable et que ne pouvait pas être accepté. Que, donc, il y a eu tout un travail qui a fait que les choses ont évolué. Vous ajoutez l'autre élément, en effet, le passage, tout bêtement, hein, pour donner des noms aux choses, même si nous sommes, tout le monde est très déçu par le factuel qui a accompagné Obama, mais le passage de Bush à Obama a été aussi une énorme transformation, c'est incontestable. Et il faut rappeler que les événements de Tunis et ceux du Caire étaient dans la perspective du discours d'Obama au Caire. Ça aussi, c'est...
C'est important.
Oui, c'est une, donc tout est en train d'évoluer. Nous sommes en train aussi de passer d'un monde à un autre. Il y a un phénomène aussi de maturation.
Excusez-moi.
Oui.
Je vous interromps parce que je sais que vous êtes un homme de parole et vous développez avec profondeur votre pensée. Ce qu'on a appelé ici le printemps du jasmin, c'est en débat en Tunisie. Les gens ne sont pas très... Surtout ceux qui ont fait la révolution... sont pas, vous en dites hein, quelques mots de
plus que
de
quelques
cela.
Mots, il y a un long passage.
Oui, absolument. Oui. Alors certains disent que c'est une boutade, hein, comme me racontait un ami tout à l'heure. Il disait que les Arabes sont très forts parce qu'ils sont arrivés à faire d'un hiver un printemps, mais plutôt le printemps de la révolution arabe que le printemps jasmin. Alors, vous pouvez nous en dire quelques mots? Qu'est-ce qui fait débat, qui renvoie à une symbolique peut-être ancienne aussi de la Tunisie par rapport au jasmin ?
Oui, là encore, avant de vous répondre, je me permets de continuer dans ce que j'ai...
Parce qu'on a qu'une heure, hein ?
Oui, d'accord. Mais dans ce que je continuais de développer, parce que c'était important, me semble-t-il, je voudrais tout simplement dire comment était aussi la situation. Hein. Je veux dire, la situation n'était pas totalement intenable. Elle s'est terriblement pervertie par la suite, mais la structure était là. Je voudrais citer un petit passage de Rousseau dans une lettre qu'il a envoyée à Mirabeau père, qui date de 1767, qui est totalement dans l'esprit de la rigueur rousseauiste qui est très forte. « Je ne vois point de milieu supportable entre la plus austère démocratie, ce vers quoi on voudrait aller maintenant, dans la situation tunisienne, par exemple, où on est dans cette situation très claire, et je reprends les termes du contrat social de Rousseau, tout le mouvement s'est fait au nom de la liberté comme quelque chose qui appartient notamment, mais je garde le mot liberté et égalité, qui sont au fondement de la démocratie, comme appartenant au droit naturel. Ça, c'est un élément majeur. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, cette référence au droit naturel, au fait que ça appartient à l'homme, quel qu'il soit, à quelle quantité qu'il appartienne, à quelque foi qui le structure, s'il est structuré par une foi, cette idée que... Le tout maintenant, le processus, et le processus difficile, c'est comment passer, et c'est cela donc le terme même du contrat social, parce que nous revenons, ce qui est fabuleux dans le cas de la Tunisie particulièrement, beaucoup plus que partout ailleurs, cette idée du droit naturel a fait que la liberté, égalité, dignité et justice, les quatre termes qui ont circulé, c'est la raison pour laquelle ils ont été diffusés partout dans le monde arabe, en raison de la langue partagée, en raison aussi de la diffusion par les médias, particulièrement par Al Jazeera, d'où cet effet considérable qui fait que le monde arabe existe, mais dans des situations totalement différentes. Je veux dire, un monde, plus qu'un monde, sépare la Tunisie de la Libye, du Yémen, de la Syrie, de l'Égypte. Chaque fois, c'est un cas très particulier. C'est pour ça que les évolutions vont être très particulières. Mais là où le laboratoire qui semble le plus proche de nos catégories, c'est celui de la Tunisie. Comment passer donc de la liberté et de l'égalité comme... éléments appartenant au droit naturel et faire en sorte qu'ils passent vers de la liberté naturelle à la liberté civile, en fait. C'est ça la grande question, c'est-à-dire de la liberté comme élément qui appartient à l'âme à la liberté au sens le plus politique. Donc citoyen. La plus austère démocratie et le hobbisme le plus parfait. Hobbisme par référence à Hobbes, c'est-à-dire l'État qui devient maître absolu, rigoureux pour justement assurer la sécurité. Et c'est cela. Il ne faut jamais oublier qu'un État comme l'État qui a été construit par Bourguiba en Tunisie était un État obésien, était un État qui était à la fois, pour reprendre l'expression de Hobbes dans le Léviathan, la machine, l'homme, Dieu et l'animal. Maîtrise de tout cela. Il y avait cet aspect-là, qui met donc dans le conflit des hommes et des lois, qui met dans l'État une guerre intestine continuelle et le pire de tous les États politiques. Nous avons là l'enjeu et comment passer de ce hobbyisme à l'austère démocratie. Et nous sommes dans la phase où ce qui menace, c'est l'État. La guerre intestine continuelle, c'est-à-dire le pire des États. Nous sommes donc dans des situations très précises. C'est pour ça que, non pas pour légitimer, pour justifier maintenant que ces abominables dictatures sont tombées, c'est leur abomination qui apparaît le plus, mais je veux dire, l'intégralité de la communauté humaine, la quasi-intégralité de la communauté humaine qui était en lien avec ces États, s'accommodait de cette situation parce que, justement, l'État obésien est construit aussi sur une répartition des droits et des devoirs qui, d'une certaine manière, fonctionnait. Sauf qu'il y a eu l'élément corruption, l'élément, je veux dire, mafia, l'élément voyou qui ne faisait que grandir, au point que c'est devenu absolument intolérable. Donc là, c'est l'occasion de savoir comment, d'un pays à un autre, comment est-ce qu'on va pouvoir passer de Hobbes à la démocratie.
Oui. Mmh, tout à fait. Edgar Morin, récemment, a fait un texte qui explique aussi un peu ces éléments du passage de l'aspiration à la liberté à l'organisation, à la structuration d'une démocratie dans le sens citoyen du terme.
Et en même temps, ce n'est pas seulement aussi... Il y a une réflexion, il n'y a pas une fabulation de la démocratie. Quand on discute avec les gens, ils savent très très bien que la démocratie est toujours, même chez nous ici, quelque chose d'inachevé, toujours à venir. Elle ne constitue pas une idéalité ou une utopie. L'État de droit est toujours confronté à l'état de fait. Toutes ces questions sont aussi posées en ce moment. Alors là, je veux bien revenir à votre toute dernière question.
La question du jasmin.
Voilà.
Et si vous pouvez faire court, je vous en remercie et vous m'en excusez par avance.
D'accord.
Parce que pour qu'on ouvre un échange avec...
Oui. C'est vrai qu'il faut lire le long passage que j'ai consacré à cette question du jasmin qui a été en effet réfuté pour des raisons simples, même si il y a un Tunisien qui, s'approprie l'expression. Parce qu'à un moment, on a dit que c'est une expression... qui est venu de l'extérieur,
voilà,
et donc une des raisons de sa réfutation, non pas par refus de ce qui vient de l'étranger, mais comme... Mais c'est vrai qu'on peut l'apercevoir comme quelque chose... C'est-à-dire, le jasmin fait partie de ces choses...
Ça a été aussi un symbole de Bourguiba, non ?
Oui, le jasmin fait partie de ces choses très belles qui ont été dévoyées. Qui ont été dévoyées par la publicité touristique, par, en effet, l'usage aussi bourguibien, par... c'est devenu le symbole d'une espèce comme ça de, je dirais, d'indolence, de sieste émolliante. C'est pas quelque chose qui appellerait à l'énergie. Mais moi, j'ai rappelé d'autres éléments et j'ai rappelé l'importance justement du jasmin duquel on peut tirer revenir à sa dimension symbolique forte. Je crois que il importe de le rappeler et dont acte admettre que l'expression a été massivement refusée après d'ailleurs un âpre débat, si l'on veut.
Parce que la révolution, elle est née à Sidi Bouzid, c'est ça. Hein,
et oui,
donc,
oui.
Il n'y a pas de jasmin là. Hein,
oui, alors là, bon, le fait que ce soit d'ailleurs. Né à Sidi Bouzid, c'est aussi un symbole très important parce que C'est totalement décentré. Hein. Je parle aussi de cette révolution du décentrement là, qui me paraît importante. Et une des surprises, ça vient de nulle part, de là où cela ne s'est jamais inscrit comme site duquel est monté quelque événement majeur. Ça, c'est important. Mais cette idée que le jasmin ne se trouve pas à Sidi Bouzid, c'est un peu énervant aussi, parce qu'il y a moyen de l'acclimater si l'on décide.
Mais bon, comme vous êtes aussi un homme attaché au symbole et à la poésie, donc bon. Alors, moi, vous me surprenez, la page 28, vous démarrez, donc c'est un chapitre sur la responsabilité de Bourguiba, et vous démarrez en disant « Nous sommes en droit d'en vouloir plus à Bourguiba qu'à Ben Ali ».
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ça ?
Oui, parce que Bourguiba était un homme de culture, était un homme informé. Mais Bourguiba était complexe, comme j'essaie de le montrer là. Il avait le projet de l'État obésien, incontestablement. Par quels moyens l'a-t-il construit ? Par trois filières, et trois filières problématiques. La première, c'est celle Bourguiba, comme la génération des nationalistes qui ont restauré la souveraineté de l'État en Tunisie en 1956, donc qui ont mis fin au protectorat, qui ont suscité ce qu'on appelle l'indépendance, puisque la fête nationale, c'est la fête de l'indépendance, le 20 mars 1956, après l'autonomie interne qui a été signée par Mendès France, que Mendès France a d'ailleurs beaucoup facilité, c'est pour ça que Mendès France est très aimé en Tunisie, après donc l'autonomie interne qui a duré une année, de 55 à 56, et Bourguiba était un homme formé à la faculté de droit de Paris et profondément marqué par l'esprit de la Troisième République. C'était un pur produit de la Troisième République. Et quand on voit la constitution tunisienne, et dès le départ, le premier geste du législateur de l'État souverain, avant même l'institution de la République, lorsque la monarchie bellicale se continuait, parce qu'elle a continué jusqu'au 24 juillet 1957. Premier geste, le statut personnel de 1956, qui est un statut totalement séculier, laïque, délibérément construit à partir des catégories du droit positif et non pas de la charia. Lorsqu'on sait que ce statut personnel était celui-là même qui était invoqué comme signe de l'identité musulmane, inaliénable, mobilisé comme tel par le législateur colonial français en Algérie. C'est-à-dire ce qui a créé cet énorme problème, cette énorme question, hein, une des très grandes questions, une des grandes tâches, on peut le dire. Hein, le pays même qui a créé l'État de droit a géré pendant plus d'un siècle des nationaux sans nationalité. Et ce qui était souvent invoqué pour cet aspect-là, c'est le fait, justement, c'est le statut personnel. Si vous voulez préserver votre statut personnel géré par la charia, il y a incompatibilité avec la citoyenneté française. Alors que l'autorité aurait dû agir autrement, c'est-à-dire comment rendre compatibles les deux par le travail pédagogique. Et là, voilà que ce signe même de la non-entrée dans la nationalité française pour des gens qui étaient nationaux dans l'Algérie voisine, le cas de la Tunisie était différent puisqu'il s'agit d'un protectorat, Bourguiba en fait le tout premier geste de l'État postcolonial. C'est-à-dire il crée un statut personnel en rupture totale avec la charia, en rupture totale avec le statut personnel émanant de la loi divine musulmane. C'est-à-dire pas de polygamie interdite, remplacement de la répudiation par le divorce, un divorce comme conséquence d'un mariage qui devient le contrat entre deux parties égales, qui sont donc ça change du tout au tout, du tout au tout, d'une manière la question de l'affiliation, tous les éléments du statut personnel qui vont être le signe de, parce qu'il y a eu trois années de constituante pour créer la constitution de 1959, constitution là aussi totalement séculière. Hein. malgré le fait qu'on signale, mais ça, ce n'est pas beaucoup de pays séculiers le signalent, le cas français est à part, que l'islam est la religion de l'État. Mais ça, bon, quand on sait qu'en Angleterre, il est dit la même chose, hein, l'anglicanisme est la religion de l'État. Là aussi, c'est Hobbesien. C'est un des signes, justement, de Hobbes. Lorsque le prince, pour reprendre l'expression de Hobbes, soumet le pontife à son autorité, en faisant en sorte que la religion devient l'affaire de l'État. Là, on entre dans des nuances techniques très intéressantes sur les multiples modalités de la sécularisation, de la laïcité. Et à côté de cela, il institue de fait, alors que ce n'est pas de jure, et c'est beaucoup plus grave parce qu'il y avait l'invocation juridique du pluripartisme, mais de fait, c'était le parti unique. C'est-à-dire le référent stalinien du parti État. Voilà, deuxième référence qui est, incohérente l'une par rapport à l'autre, qui crée une contradiction, mais qu'on peut imaginer comme fonctionnelle, utilitaire, pour justement créer l'État hobbesien. L'État dominant, pourquoi ? Parce que Bourguiba avait le projet de bousculer une communauté humaine et d'une manière autoritaire, lui apporter les lumières, lui apporter, c'est-à-dire l'évolution décisive. Et ça a été le cas, en effet, par l'insistance sur l'enseignement, sur l'école. L'école de Jules Ferry, son universalisation a eu lieu, non pas à l'époque coloniale en Tunisie, mais sous Bourguiba. Et il y avait le projet de l'école totalement, c'est-à-dire celle de la Troisième République. Et nous avons connu en Tunisie ce moment auquel d'ailleurs ont participé nombre de Français, parce qu'il y a eu un très grand nombre, un contrat de coopération très fort entre la France et la Tunisie. Personnellement, la moitié des maîtres qui m'ont formé étaient Français. Dans le cadre de cet état de l'école postcoloniale bourguibienne, j'en suis le pur produit. On avait vécu d'une manière très très forte, on a eu des instituteurs, on a eu des professeurs qui étaient des missionnaires. Au sens fort, véritablement. C'était les prêtres de la République. Cette idée des prêtres de la République, tout ce qui a été vécu à la fin du XIXe siècle, lorsque la ruralité française a basculé, a été totalement métamorphosée par l'école, et qui a fait que c'est là, un siècle après 1789, que 1789 s'est totalement concrétisé en France, cet aspect-là, nous l'avons vécu en Tunisie, pendant les deux premières décennies bourguibiennes. Donc c'est un élément majeur et important, auquel s'ajoute la natalité, qui a été une politique d'État, dès la fin des années 50, très autoritaire, parfois d'une violence dont vous n'avez pas idée, puisqu'en milieu rural, sans dire aux femmes, on coupait les trompes parfois, quand elles parvenaient au troisième enfant. Pour vous dire que jusqu'où ça allait. Il y avait un aspect très, très, très...
très violent.
Voilà. Et cela donc a abouti à la situation qui a fait que lorsque Emmanuel Todd et Yves Courbage avaient écrit leur livre Le rendez-vous des civilisations, l'enquête qu'ils avaient menée sur les pays arabes, à propos du modèle qui était le leur, construit essentiellement sur le taux de natalité et le taux d'alphabétisation, et à partir donc d'un certain chiffre, d'un certain rapport pour ces taux-là, immédiatement on obtient une modernisation mécanique de la société et une modernisation qui va en principe vers la démocratie. Et lorsque ils sont parvenus au cas de la Tunisie, ils s'interrogeaient, ils trouvaient qu'il y avait un hiatus face donc à ce régime totalement dictatorial, incohérent par rapport aux chiffres qui étaient présentés. Parce que partout ailleurs dans le monde, ces chiffres, le taux d'alphabétisation et le taux de natalité, qui était inférieur à celui de la France et qui continue de l'être en Tunisie, je crois en France c'est 2-1 et en Tunisie on est entre 1-9 et 2, ça dépend des années, donc 1,95. Et cet aspect-là, il s'interrogeait sur la raison pour laquelle le pays qui était le plus disposé dans le monde arabe à parvenir à la démocratie en raison de ces deux taux, donc de ce modèle anthropologique, était la Tunisie. Et là, c'est dû justement à l'action bourguibienne.
Alors, je vais peut-être vous arrêter pour vous poser peut-être une ou deux questions avant d'ouvrir la discussion avec la salle. Vous consacrez aussi pas mal de place, à la place qu'ont pris les jeunes dans cette révolution. Et vous dites aussi que les femmes en Tunisie vous impressionnent. Alors sur les jeunes et les femmes, peut-être là aussi ça participe à déconstruire, parce que pendant quelques décennies, on nous a expliqué que la jeunesse dans ces pays-là, les femmes, alors qu'elles ont joué là, que les jeunes ont joué un rôle déterminant, ils ont pris une place importante en Tunisie, mais en Égypte aussi.
Oui, absolument.
Et court, s'il vous plaît.
Oui, ben j'essaye. Je continue quand même un élément à propos de Todd et Courbage.
Ah oui, vous êtes infernal.
Ils ont découvert qu'il y avait un taux d'endogamie. Il y avait un taux d'endogamie très fort, ce qui fait que ça peut s'expliquer, puisque ça crée des solidarités internes qui font qu'on peut se retirer de l'agora. Du débat public, alors que l'énergie du débat, l'énergie de la résolution des conflits, des tensions nécessaires et de leur expression pouvait se faire à l'intérieur des arènes privées à la hauteur des clans, quoi. Voilà. Troisième élément quand même pour Bourguiba, à ce que j'appelle la rémanence de l'émirat. Ça, c'est très 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 important. Oui. Voilà. Cet aspect donc qui vient du despotisme local hérité. Et je reproche donc à Bourguiba de ne pas avoir fait le travail sur soi pour, justement, lorsqu'on est constitué d'une pluralité d'identités, il y a la nécessité, je veux dire, de faire le ménage, parce qu'il y a de l'incompatible. Et là, je prends un exemple très simple d'incompatibilité funeste, c'est en cela que les identités peuvent devenir meurtrières. J'estime personnellement que la guerre civile qui s'est exprimée en Algérie dans les années 90 n'a fait que concrétiser l'incompatibilité du discours nationaliste des années 1950 qui manipulait deux références sans qu'elles aient été pensées, sans qu'on ait pensé à leur inconciliable et à la possibilité de leur conciliation, le djihad d'un côté, le moujahid, c'est-à-dire le référent religieux islamique, et les droits de l'homme et les références à 1789. Et c'est la cohabitation de ces deux discours sont entrés en choc 30 ans après. Hein, c'est toujours, il y a toujours des retours de l'histoire. Et la même opération de non-travail sur soi se manifeste chez Bourguiba, me semble-t-il. Hein. Mais il n'empêche qu'il reste, je le dis, je le répète, un grand homme et qu'il faut l'honorer comme tel parce qu'il a permis à la Tunisie de connaître une mutation qui, je l'espère, trouve en ce moment son véritable temps de réalisation et de concrétisation, si les choses se passent bien, parce que c'est très très compliqué, la phase transitoire est très complexe. Alors, les femmes et les jeunes, ça c'est très, c'est absolument extraordinaire, j'étais fasciné, et je rends en effet hommage aux uns et aux autres. Et en quoi alors ces jeunes et les femmes, ce sont ces deux éléments qui nous ramènent à penser ce qui s'est passé en Tunisie comme quelque chose d'immensément proche, qui appartient, je veux dire, à des catégories qui sont les nôtres. Je cite là, de ce point de vue-là, l'Américain Jane Sharp, qui a été très peu cité en France, je ne sais pas pourquoi. Elle a été très présente dans la presse américaine. Il est vrai que cette référence n'a pas existé en Tunisie. Mais elle a été immensément active dans le même milieu qui était en contact. D'ailleurs, ils étaient en contact les uns avec les autres, les jeunes de la blogosphère égyptienne. Jane Sharp, étant chercheur américain, universitaire, il avait son laboratoire de recherche à Harvard, politologue et juriste, qui a fait des travaux très érudits, très savants sur justement la question de l'autorité, du pouvoir autoritaire. Et après, il s'est occupé d'une manière très pragmatique à l'anglo-saxonne sur les cas particuliers du passage de la dictature à la démocratie dans le monde qui nous est contemporain. Et il a écrit, outre ses livres très savants, un ouvrage qui est un manuel immensément pratique, qui donne vraiment les recettes dans les moindres détails, qui s'appelle « From Dictatorship to Democracy », de la dictature à la démocratie, qui est un livre qui a été traduit dans 33 langues, soutenu par la Fondation Einstein. C'est pour cela qu'il est téléchargeable gratuitement, et il est traduit notamment en arabe. Et ce livre a été un manuel pratique pour les jeunes de Meydan al-Tahrir, en Égypte. Hein, et il a eu un rôle énorme dans les pays de l'Est, pour ce passage justement de la dictature à la démocratie. Notamment, il a été très utilisé par les jeunes en 1982 en Serbie, par un groupe qui s'appelle Oktpor, contre la dictature de Milosevic. Et toutes ces références-là ont été actualisées en conscience par les Égyptiens. Et donc ça fonctionne sur l'idée très précise de la résistance civile. La résistance civile non violente, oui. Et comment, par la résistance civile, c'est-à-dire comment susciter le passage, dessaisir l'État autoritaire de la confiance qu'on lui accorde. Et comment faire que la défiance se transforme en résistance civile non violente. Jamais de confrontation. Avec une idée très simple et très belle, et qui vient d'une référence française qui est majeure, qui est très très importante, et qui a été active là aussi d'une manière spectaculaire en Tunisie, en Égypte et partout dans le monde arabe, le fameux, d'ailleurs on revient chez vous tout à fait, on est au cœur de Bordeaux, où il s'agit de quelqu'un de chez vous, le traité de la servitude volontaire de la Boétie, hein, cet énorme texte, la manière avec laquelle il a été lu par Clastre, par Lefort, par Gaucher, par les psychanalystes, c'est un ouvrage absolument majeur où il y a cette idée, hein, que ne rien chercher à arracher à l'État autoritaire, à prendre, mais ne rien lui donner. Hein, c'est une cette forme de résistance a été extrêmement importante, et les jeunes ont été extraordinairement actifs là-dedans, comme les femmes, hein, dans ce même domaine, dans ce même processus. Et c'est important donc de rappeler cet aspect-là et de dire que ce qui est en train de se passer actuellement dans le monde arabe, le réseau conceptuel qui a réfléchi sur cette notion de servitude, de résistance civile. Nous avons un Français aussi qui a fait sa thèse là-dessus dans les années 80, que j'ai rencontré la semaine dernière. On a eu une discussion absolument passionnante. Jacques Semelin, donc un concitoyen qui est directeur de recherche au CERI, professeur à Sciences Po à Paris, et qui, après sa thèse, a passé 5 années, m'a-t-il dit, dans le laboratoire à Harvard de Gene Sharp. Et lui, il a beaucoup travaillé sur, justement, cette notion de résistance civile à l'époque nazie, dans les espaces des résistances, là où il y a eu de la résistance non violente, hein, de la Suède à la France, et à l'intérieur même de l'Allemagne. C'est un sujet qui a été négligé par l'historiographie, et il est en train de revenir de manière forte. La deuxième séquence étant les pays de l'Est, la sortie des États totalitaires communistes, et il estime que le réseau conceptuel qu'il avait élaboré pour travailler sur ces deux séquences historiques est aussi heuristique, fonctionne parfaitement sur ce qui est en train de se passer dans le monde arabe actuellement, et il est en train de s'informer, de se convertir pour introduire cette troisième séquence historique dans sa propre application conceptuelle. Donc ces jeunes ont été totalement au cœur de ce phénomène. Et en quoi ils étaient encore plus impressionnants, c'est qu'ils testent une nouvelle manière peut-être de participer à l'histoire et de faire de la politique. Dans quel sens? Dans le sens où à partir justement de la blogosphère, parce que le rôle énorme évidemment des médias. Hein. Quelqu'un comme Jacques Semelin a écrit un livre sur justement l'effet considérable à l'époque des ondes dans les pays de l'Est, et particulièrement le rôle qu'avaient joué trois radios, Freedom, la BBC, dans ses programmes destinés aux pays de l'Est, et notre RFI. Alors imaginez cet aspect essentiel, les proportions gigantesques qu'il prend lorsqu'on dispose d'Internet. Et ça a été le cas pour ces jeunes, qui ont travaillé d'une manière extraordinaire sur Internet, et qui estiment justement qu'il y a là une nouvelle façon de faire de la politique. Et ils ont participé, me semble-t-il, à une histoire que nous sommes en train de vivre. parce que cette histoire du rapport d'Internet avec la politique et avec l'histoire, le premier qu'il avait mis en place d'une manière très forte, active et qui a réussi, c'est Obama. Le rôle d'Internet majeur
à la campagne.
Mmh. Vous savez que l'effet de l'intervention d'Internet dans la campagne d'Obama a été chiffré si Internet n'était pas gratuit, et il eût fallu tripler le budget de la campagne électorale pour obtenir le même effet. Donc il y a cet aspect qui est majeur. Deuxième test 2009, ce qui s'est passé en 2009 en Iran, et ça n'a pas fonctionné, mais par contre là, on est dans la même nature. Et là, le troisième aspect. Et alors, ces jeunes, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils sont déjà, sans être passés par le temps démocratique de la politique et des partis, ils sont, comme d'ailleurs beaucoup de jeunes ici même en France et en Europe, ils sont post-politiques. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas entendre parler des partis. J'ai eu beaucoup de discussions avec eux, que ce soit les jeunes d'Égypte ou les jeunes de Tunisie. Ils ne veulent pas être des militants qui distribuent des tracts, qui perdent leur temps dans des réunions. Pas du tout. Pour eux, la communauté virtuelle est majeure. Ils m'ont dit précisément ceci. Nous nous sommes assignés pour tâche d'abattre des dictatures. Nous l'avons réussi dans deux pays. Nous nous sommes rassemblés en communauté. Cette communauté, une fois la tâche accomplie, est prête à se dissoudre. Et elle est prête à se reconstituer à n'importe quel moment lorsqu'on estime que la tâche assignée vaut la peine. Voilà. Donc on est dans cet esprit total, beaucoup plus que d'action, je veux dire, de parti organique, dans la technique du politique, plutôt dans cette continuité de la résistance civile. Alors, est-ce que vraiment elle est viable dans le contexte, justement,
parce que le passage à la démocratie, de la c'est démocratie. Aussi le passage à des organisations structurées, etc.
Donc, il y a ce débat. Et lorsque je leur dis d'ailleurs que ceux qui sont politiquement le mieux structurés, qui sont dans la passion du politique, qui sont dans la technique du politique, les plus performants d'évidence, et là je l'ai découvert, je le montre dans le livre, par toute une série d'indices, ce sont les islamistes, que toute cette classe moyenne qui a participé à la blogosphère était tout sauf islamiste, elle n'avait même pas de référent islamique. Ceux d'Égypte, c'est différent parce que l'islamisme est autrement plus présent dans la société,
mais
la
réislamisation. Ces dernières années quand même.
Tout ça, non, mais toute la conjoncture actuellement les affaiblit. Je pense que là,
parce que les frères musulmans en Égypte,
ces événements, le travail critique que nous avons fait, l'action aussi des États autoritaires et des dictatures qui ont interrompu le processus, je veux dire, historiquement, l'échec.
Non, mais ce dont on se rend compte par rapport à ces révolutions arabes, c'est que ces organisations religieuses étaient maintenues sous perfusion par un discours international et une logique de choc des civilisations, alors qu'effectivement, dans ces pays, il y a une forte aspiration à la liberté, à la démocratie, à des valeurs qui sont universelles. Je crois que... Alors, peut-être une dernière question pour aller vers votre dimension aussi personnelle. Votre séjour en Tunisie, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Vous y allez dans un premier temps seul, vous rencontrez des amis, donc des jeunes, ce que vous dites précisément à ce moment-là. Et votre fille qui vous rejoint, donc là aussi, il y a quelque chose qui se joue. Voilà, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots?
Oui, qui est allée tourner, parce qu'elle est reporter et documentariste. Elle avait tourné d'ailleurs, notamment parmi les choses qu'elle avait tournées, au mois de mars, a été diffusé sur Arte dans l'émission Trax un reportage d'elle de 25 minutes sur le rap et la révolution. Donc elle a pénétré dans les profondeurs des favelas où il y avait les chanteurs de rap, et elle a décrit tout ce milieu absolument passionnant. Et en effet, pour moi, ça a été disons un vecteur d'introduction très très fort.
D'accord.
Vers cette jeunesse.
Donc elle vous a facilité l'accès
Sur Internet.
D'accord.
Parce qu'elle est le pur produit de la génération du digital, évidemment. Nous sommes des pachydermes par rapport à cela. Bon, et en effet, la première qui m'a introduit à l'effervescence dans le net des Tunisiens, qui m'a beaucoup impressionné, elle me dit même, regarde, là, vous avez des neveux qui participent, des gens qu'on croyait totalement apolitiques, totalement hors. Il y a eu ce moment, ce miracle, là, où tout le monde s'est découvert à ce moment-là.
Ouais.
Et là, la résistance civile est devenue spectaculaire. Je veux dire, la propagation impressionnante à l'échelle, je veux dire, d'une communauté nationale intégrale de la défiance. Comment on est passé, justement, de...
Le mur de la peur.
De la servitude à la liberté.
Ouais.
Sans aucune transition dans le réel. comme si on avait assisté à un renversement du désir. C'est très, très étonnant. Sitôt que les hommes cessent de vouloir le tyran, il est défait. Et je peux vous assurer que la conjoncture actuelle, justement, et les événements qui ont eu lieu, vous le verrez de vous-même, les événements vous le confirmeront. Là, je le dis, je ne suis pas l'homme des certitudes, mais j'avance, j'ose avancer que cette question sera traitée par les siens mêmes. Nous sommes dans ce moment d'évolution très important. On arrive enfin au débat et au terme du débat. J'ai souvenir d'un ami philosophe québécois, grand spécialiste de Platon par ailleurs, qui m'avait dit un jour, le jour où vous pourrez parler sereinement et dans la courtoisie et échanger dans la différence qui est la vôtre avec Tariq Ramadan, je dirai ce jour-là que vous êtes en train d'arriver vers la démocratie. Ça a eu lieu dans le débat avec le monde, dans le monde qui a eu lieu récemment.
Bien, bah écoutez, merci à vous, merci surtout à Abdelhab Medeb pour l'énergie et la richesse de ses propos.
Merci, merci d'être venu, merci beaucoup. Merci.